confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies.
Je suis en compagnie de Louis-Philippe Messier, qui est le chroniqueur journaliste urbain pour le Journal de Montréal, et de André-Sylvain, André-Sylvain Latour. Alors, chef de la rédaction à Cube, qui ont tous deux écrit des textes sur l'explosion de crack dans le métro. Je vous invite à lire leur texte aujourd'hui. Le texte d'André-Sylvain est dans la section Faites la différence, et le texte de Louis-Philippe est dans sa chronique de journaliste urbain. Explosion de crack?
Oui, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que non seulement on en voit, j'en vois de plus en plus, mais j'ai appris que les organismes qui distribuent du matériel sécuritaire d'inhalation, donc des tubes de Pyrex pour le crack, ou des fois ce qu'ils appellent des bulles, c'est une sorte de tube avec un bout arrondi, sphérique, et ce qui sert pour le crystal meth et le fentanyl, ai-je appris pendant mon reportage. Ils en ont distribué pratiquement 2 fois plus l'an dernier que l'année précédente. Et c'est pas parce qu'eux en font la promotion, c'est parce qu'on le leur demande. Il y a donc, et puisque la demande en tube explose, on peut en déduire que c'est pas seulement notre imagination qui nous fait voir plus de gens qui fument, il y en a réellement, sans doute.
Mais pourquoi ils distribuent ça?
Parce que pour prévenir la transmission de maladies, principalement. Okay. Si tu as ton tube, j'ai le mien, ça va bien, mais si on en a un seul, que ça coûte 3 $ au dépanneur, parce que oui, on peut l'acheter au dépanneur à certains endroits, là, c'est dangereux. C'est comme les seringues. Distribuent des seringues, distribuent aussi des tubes.
Tu peux acheter ces tubes-là au dépanneur,
oui.
Mais ça, donc ils ont une autre utilisation que l'utilisation qu'on en fait pour fumer du crack et du fentanyl?
Non, mais il n'y a pas de loi contre les tubes de Pyrex.
OK, mais on sait que ça sert à ça. Donc, et en lisant ton texte, je me suis rendu compte, parce que évidemment, moi, j'ai jamais fumé de crack de ma vie, 15 secondes.
Ça se fait vite, 15 secondes.
Ça se fait
secondes,
très rapidement.
Oui, puis on entend les gens jouer avec leurs briquets. Souvent, parce qu'ils utilisent beaucoup leurs briquets, ils ont un problème de briquet, fait qu'on les entend jouer beaucoup. Fait que t'entends tchic, 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 tchic. Et tu dis, ah, OK, là, il a réussi à allumer sa pipe. Puis là, ça se fait assez vite. Des fois, ils ont des torches aussi, une espèce de petit briquet qui font une flamme, là, qui ressemble à...
Et l'effet est instantané, là.
Oui.
Boum, c'est un hit instantané. André-Sylvain... Bien sûr, tes collègues ici à Cube, puis il y a des vitres ici, puis on voit à l'extérieur, puis tu as vu une fille, il y a une photo là, justement là, qui accompagne ton texte, un texte très sensible, très touchant.
Merci.
Puis ça fait une couple de fois qu'on voit cette fille-là.
Hein. Ah, ça fait au moins 3 fois que cette fille-là est exactement dans la même position.
C'est quoi? Elle est comme debout, mais penchée?
Oui, on dirait qu'elle s'endort en réalité. Hein. Le fentanyl a tendance un petit peu à, si je me trompe pas, là, je suis pas un expert, là, mais il me semble que ça fait ralentir ta respiration. Et donc, on dirait qu'elle succombe un peu à son high.
On
finalement.
La voit, là.
Voilà, exact.
Elle est comme ça pendant de longues minutes.
Ah, mais on parle
la première fois qu'on l'a vu, on dit, coudonc, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ben,
pour te donner une idée, Richard, la première fois qu'on l'a remarqué dans cette position-là, je suis sorti. Je me suis rendu au coin Berry-Sainte-Catherine pour essayer de voir s'il n'y avait pas un policier pour être en mesure de l'aider. J'ai été en mesure de faire le tour complet du parc Émilie-Gamelin. Et quand je suis revenu, elle était encore dans cette position-là.
Comme ça?
Pareil.
Est-ce qu'elle souffre? Tu lui as parlé à la veille?
Je lui ai parlé hier. Non. Mais je peux te dire le regard extrêmement lointain. Extrêmement lointain. Elle était pas là. Pourtant, elle me répondait, mais tu vois, sa première préoccupation, c'était ses médicaments. Elle m'a dit, on m'a volé mes médicaments, le gars m'a tripoté et tout ça. Moi, je présume qu'il a dû la fouiller. Ses médicaments, j'ai dit, est-ce que je peux t'aider à en trouver d'autres? Elle m'a dit, non, c'est sur le marché noir. Donc, je présume que ça devait être sa prochaine dose.
OK. Elle disait que c'était un médicament.
Mais ben, elle, c'est comme ça qu'elle a appelé ça. Là, je suis pas allé plus en profondeur dans ça. Et quand je l'ai aidé à ramasser son stock, elle m'a dit, fais attention au sac, il y a des seringues dedans. C'est à peu près la conversation que j'ai eue avec.
Louis-Philippe, ma fille cadette, là, qui s'est fait d'ailleurs agresser par une toxicomane en crise dans le métro, elle me dit régulièrement, parce qu'elle apprend souvent le métro, elle dit régulièrement, elle voit des gens fumer du crack dans le métro. Là. Oui, ça fait partie maintenant de la vie quotidienne des usagers du métro.
Et tu te souviens, il y a une trentaine d'années, ça n'arrivait pas. Les gens, des fois, se piquaient, ils se cachaient dans des cages d'escalier à côté de l'UQAM. Le crack faisait comme pas partie des mœurs, alors que maintenant, ben, de plus en plus. Et tu remarqueras, des fois, les gens sont assis. Et moi, je regarde un peu ce qui est à côté d'eux, parce qu'on voit souvent leur matériel pour fumer. Il y a le briquet, il y a un sac de ci, de ça. Des fois, tu vois le petit tube de verre qu'ils laissent là. Puis les deux gars, une des photos là, dans l'article, c'est dans un édicule. Je me dis, ah, il y a souvent des gens qui fument du crack. Là, je vais aller voir, j'ai besoin d'une photo. Puis je suis monté. Il y avait effectivement deux gars debout qui étaient en train de je sais pas si on dit bourrer leur pipe, mais de se préparer. Ils utilisaient l'escalier roulant un peu comme une sorte de table.
Ah ouais.
Pour leur matériel, puis ils se parlaient à haute voix.
Fait que les gens qui utilisent l'escalier roulant voient ça, là. Est-ce que ça coûte cher?
C'est 20 $. Non, c'est un peu l'ironie. Tout coûte plus cher maintenant, sauf le crack ou sauf la drogue dure. Là, ça reste pris. Ça coûte 20 $. La roche de crack coûte 20 $ depuis 30 ans, me dit-on. Parce que c'est commode, je pense. Quand tu vends ça, tu vas avoir comme recevoir un seul billet. Tu n'as pas envie de commencer à donner de la petite monnaie aux gens. Donc, ça reste alors, comment dire, donc c'est relativement de plus en plus abordable, le crack.
Et est-ce que tu as des chiffres, là? Est-ce que vraiment il y a une explosion?
Ben écoute, en réalité, c'est une étude qui a été dévoilée en septembre dernier par l'UMQ quand même, là, l'Union des municipalités du Québec. Et pour te donner une idée, selon cette étude-là, un itinérant pour s'occuper de lui coûte 72 521 $ à la société. Donc là, on parle en service, on parle, tu sais, tout ce qui englobe l'accompagnement d'une personne qui est en état d'itinérance, c'est plus de 70 000 $ que ça coûte aux Québécois. Donc là, je pense que à un moment donné, à la lumière de ces chiffres-là, d'ailleurs, l'étude dit que si les municipalités continuent de simplement garder le statu quo de ce qu'ils font, on parle de coûts d'ici 2027 de 450 millions de dollars pour s'occuper de l'itinérance.
Ben, c'est pour ça que les villes disent on pète aux frettes puis se retournent vers le gouvernement provincial en disant aidez-nous parce qu'on peut pas augmenter les taxes municipales plus qu'elles le sont là.
Absolument, puis de toute façon là la question un peu se pose, est-ce que c'est aux citoyens qui ont pignon sur rue qui payent des taxes municipales de s'occuper de l'itinérance et ainsi de suite. Tu sais, je veux dire, tu le sais Richard, la personne qui va vivre dans Huntick, puis je vais juste nommer ça comme ça, et qui a des nids de poules devant chez elle, va vouloir 100 fois probablement s'occuper, que la ville s'occupe de son nid de poules plutôt que de cette personne-là qui était devant notre porte hier. Et tu sais, moi, ce que j'ai voulu un peu faire avec ce texte-là, c'est un peu d'humaniser ces gens-là qu'on a trop tendance à passer à côté, à ne pas voir.
C'est la misère, c'est de la misère. Et qu'est-ce qui les amène? T'sais, la question, c'est pourquoi il y a autant de gens qui ressentent le besoin de se doper? Parce que ça, c'est des gens qui s'auto-médicamentent. Là. C'est vraiment ça.
C'est
là.
Une question très, très complexe, mais dans mon texte, j'ai vraiment axé, je me suis concentré sur la question du logement qui est de plus en plus inabordable. Ce qui va offrir beaucoup, beaucoup de nouvelles recrues potentielles à ce monde-là. Et je fais partie des pessimistes qui pensent que ce qu'on voit maintenant... Il n'y a rien là. Ça va sans doute aller en s'aggravant et je ne vois pas la fin. Tant que le logement va être inabordable, que les gens doivent vivre dans des taudis, c'est plus facile de se retrouver à la rue maintenant qu'avant. Avant, il fallait avoir vraiment des graves problèmes, être complètement désorganisé, subir une succession de malchances. Alors que maintenant, même les gens qui travaillent ont un bon emploi, ont du mal à se payer le logement. Dans ce contexte-là, ça veut dire beaucoup, beaucoup de nouveaux itinérants à prévoir. Et ces gens-là sont beaucoup plus vulnérables au paradis artificiel.
Bien ça, écoute, on va devenir comme Vancouver. Vancouver, c'est vraiment, il y a des sections à Vancouver, c'est hallucinant.
J'ose espérer que le Québec va se ressaisir puis va arriver avec une politique intelligente, complexe, d'ici 2 ou 3 ans pour prévenir... Pour ne pas en arriver là, ce serait vraiment dommage qu'on se laisse aller comme les États-Unis.
Mais en attendant, si je peux renchérir malheureusement sur ce que tu disais tout à l'heure dans le métro, moi j'ai été témoin aussi, comme toi, de consommateurs de crack. Les policiers sont passés devant et lui ont dit d'aller faire ça ailleurs.
Ah ouais.
Donc, tu sais, d'un autre côté...
Mais tu sais, les policiers disent, tu parles à des policiers, puis ils disent 80% de nos interventions maintenant, c'est des histoires de santé mentale, puis tout ça, c'est pas vraiment des gens qui commettent des crimes, c'est la misère humaine. Ils sont en train de faire les jobs de travailleurs sociaux, quasiment. Montréal s'en va, ça abomme, là. Puis toi, t'es le journaliste urbain, tu te promènes en ville, tu connais la ville, puis ta voix a changé, là.
Oui, puis la question de l'itinérance, mais tu te souviens, il y a 2-3 ans, il y avait un campement sur le bord de Notre-Dame. C'était d'un village organisé, c'était même préparé des douches et tout. C'était encore la pandémie. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, là, depuis la pandémie, depuis les mois de confinement, il y a des gens, on dirait que ça les a brisés. Des gens qui sont endettés, il va y avoir une succession de faillites. Et là, le prix du logement a explosé. Donc, je pense que c'est vraiment à ce moment-là, là, à peu près pendant la pandémie, que le problème s'est accentué. Et je pense que ça se reflète ensuite sur la consommation de crack. C'est mon hypothèse, je ne suis pas spécialiste. Là.
Mais c'est d'une tristesse incroyable, vraiment. Il y a des jeunes qui souffrent énormément dans les rues de Montréal.
Et malheureusement, on dirait que de plus en plus, il y a rien à faire. Et Benoît, notre collègue Benoît Dutrisac, a reçu il n'y a pas si longtemps M. Vaillancourt du comité de la ville de Montréal. Puis lui, il expliquait que Québec avait tout simplement tiré le financement d'une escouade spéciale, la ECCR, si je me souviens bien de mémoire, qui est un programme qui comportait 15 policiers et 6 intervenants sociaux pour aller voir ces gens-là, s'en occuper, leur offrir de l'aide, puis ultimement peut-être les sortir de cette spirale de drogue, de consommation et d'itinérance. Et pourtant, les fonds ont été tirés. Donc, tu sais...
Les gens qui nous écoutent aussi, qui sont à Québec, là, je suis allé récemment dans le quartier Saint-Roch à Québec aussi, là, ça commence à ressembler à ce qui se passe ici autour du parc Émilie-Gamelin. Donc, 2 textes là, à lire absolument, La consommation de crack explose de Louis-Philippe Messier et aussi L'enfer de la drogue fait des ravages au coin de la rue d'André-Sylvain Latour. Merci beaucoup à vous deux.
Merci Richard. Merci.